Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Et dans cette émission Au fil des pages, je vous propose de rencontrer deux êtres d'exception grâce à la correspondance qu'ils ont échangée. Il s'agit de Stanislas Fumet et de Berthe Tigel. Et comme moi, vous allez certainement les découvrir. Alors, pour nous introduire dans leur univers, j'ai le plaisir de recevoir David Gaillardon, que nos auditeurs ont l'habitude d'entendre sur Canal Académie pour ses chroniques habituelles, c'est-à-dire Entente cordiale, pour ses portraits d'académiciens d'après les discours académiques, pour aussi ses nombreuses interviews d'écrivains sur Canal Académie. Aujourd'hui, c'est lui qui est notre invité. Bonjour David Gaillardon.
Bonjour Hélène.
Vous avez présenté et annoté les lettres de Stanislas Fumet dans un livre récemment paru aux éditions L'Harmattan qui s'intitule « Lettre à une convertie », lettre au pluriel, à une convertie. Alors ma toute première question, présentez-nous s'il vous plaît et Stanislas Fumet et cette convertie, car nous ne connaissons au fond ni l'un ni l'autre.
Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par Stanislas Fumet, qui est un personnage méconnu aujourd'hui, qui est un personnage atypique d'ailleurs en tout. Stanislas Fumet, c'est quelqu'un qui est né en 1896, il est mort en 1983, il couvre donc l'essentiel du XXe siècle, et il est un personnage important, je dirais, de l'intelligentsia catholique. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu parisien, un milieu bohème. Je vais vous donner un exemple qui est très frappant. Le père de Stanislas Fumet, qui était compositeur de musique, qui travaillait pour les oratoriens de Juilly, en Seine-et-Marne, était surnommé Dinam Victor Fumet, parce que dans sa jeunesse, il avait, dit-on, manié la dynamite et il avait été anarchiste avant d'être frappé de la grâce comme Claudel et de devenir chrétien catholique. Donc Stanislas Fumet, c'est quelqu'un qui grandit à Paris, qui fait ses études chez les oratoriens grâce au milieu familial et qui arrête ses études assez tôt, je dirais au lycée, au moment du bachot, comme on disait à l'époque. Et c'est quelqu'un qui donc a une grande partie de sa culture, qui est avant tout la culture d'un autodidacte, d'un jeune homme parisien qui naît donc dans cette fin du XIXe siècle, dans une époque de grande effervescence fin de siècle, un peu décadente, un peu précieuse. C'est le milieu Montmartrois que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi le milieu de cette bohème parisienne, de Jean Rictus, de Léon Blois, de Huysmans, toutes lectures qui l'ont beaucoup nourri. Et c'est quelqu'un qui a été aussi avant tout un grand chrétien. Je pense que cette génération qui a été touchée par la Première Guerre mondiale, par cette expérience difficile, traumatisante qu'a été la Première Guerre mondiale, a été amenée à un questionnement, à se poser des questions profondes sur la raison d'être. Et Stanislas Fumet, une fois qu'il est converti, est quelqu'un qui se rapproche énormément de Jacques Maritain. Il a été une sorte de bras droit de Maritain et il a été le directeur littéraire des éditions Desclée de Brouwer dans les années 20, au moment où cette maison d'origine belge s'installe à Paris. Et on doit à Stanislas Fumet d'avoir découvert Bernanos, d'avoir découvert Julien Green, qui sont devenus des amis. C'est lui qui édite Adrienne Mesura de Green. C'est lui qui édite Sous le soleil de Satan. Ça n'est pas rien quand même. Au moment où il rencontre la seconde personne qui nous occupe aujourd'hui, Berthe Tigel, le directeur du service des corrections de l'intransigeant, on appelait ça l'intran à l'époque. L'intran, c'est un des grands tirages de presse des années 20. Vous savez que la presse française des années 20, c'est une presse qui est en pleine santé, d'une effervescence incroyable. Et l'intran, comme on disait à l'époque, quand on le vendait à la criée dans les rues de Paris, était un des premiers, un des plus grands tirages, je dirais, des journaux du soir. Et Stanislas Fumet donc rencontre une jeune sténo de presse qui s'appelle Berthe Tigel, qui est une jeune juive dont la famille est polonaise et est venue s'installer en France au début du XXe siècle. Berthe Tigel elle-même est née en 1906 à Paris. Et tous les deux se rencontrent, ce sont des collègues de travail que l'on dirait aujourd'hui. Et Stanislas Fumet passe pour avoir converti la plupart des membres du personnel de l'intran. On lui avait beaucoup reproché à l'époque d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est comme ça que va naître cette amitié qui est à l'origine de cette correspondance de 50 ans.
Alors, vous avez justement regroupé 50 lettres qui vont toutes dans le même sens, je crois. Ce sont des lettres de Stanislas Fumet à Berthe Tigel.
Alors, malheureusement, effectivement, on n'a pas les lettres que Berthe écrivait à Stanislas Fumet. On a les lettres de Stanislas Fumet. Stanislas Fumet lui-même a écrit beaucoup, a beaucoup publié. Il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit...
Son grand livre.
Son grand livre, ce sont ses mémoires. C'est Histoire de Dieu dans ma vie.
Histoire
de Dieu dans ma vie qui est apparu chez Fayard Mam à la fin des années 70 et que le CERF a réédité il y a quelques années, qui est un témoignage incontournable sur l'engagement chrétien d'un intellectuel au XXe siècle.
Alors justement, les lettres qu'il adresse à Berthe Tigel, 54 lettres, de quand datent-elles ces lettres-là ?
Alors, la première lettre qu'on ait, elle date de 1930, la dernière de 1976. En fait, la rencontre entre Stanislas Fumet et Berthe Tigel intervient en 1929, donc dans les couloirs de l'intrant. Tous les deux échangent et Stanislas Fumet a un ascendant. D'abord, il est plus âgé que Berthe Tigel. Il a un ascendant certain sur elle. Ils ont un échange spirituel. Elle va se convertir au christianisme. Elle devient catholique sous l'impulsion de Stanislas Fumet et de sa femme à Utah. Et Stanislas Fumet devient le parrain de Berthe Tigel.
Qui va changer un peu de prénom d'ailleurs à l'occasion de sa conversion.
Alors elle s'appelait Baïla à l'origine. Elle s'appelait Baïla qui était son prénom hébreu. Et elle prend le prénom de Berthe en se faisant baptiser à la congrégation du Saint-Esprit à Paris, dans le 5e arrondissement. Et donc ces lettres sont écrites entre 1930 et 1976, essentiellement pour le 15 août. C'était le jour anniversaire de, en quelque sorte, leur amitié, puisque c'est le jour où Berthe Tigel a reçu le baptême. Donc chaque année, pour le 15 août, il lui écrit une lettre. Il y en a d'autres qui viennent meubler cet échange épistolaire. Mais le 15 août, il y a toujours une lettre un peu spéciale, je dirais, du parrain à sa filleule.
Et vous insistez d'ailleurs sur cette fidélité, car en vérité, l'un des intérêts de cette correspondance, c'est justement de montrer que cet intellectuel était d'une très grande fidélité.
Alors, c'était un type atypique, je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où déjà physiquement il avait une allure incroyable, une allure de poète médiéval. Il avait ce qu'on appellerait la coupe bol, ses cheveux avec une coupe de cheveux invraisemblable, un collier de barbe. Donc il avait une allure de barde. Déjà physiquement, Stanislas Fumet, c'était quelqu'un qui impressionnait, je pense. On ne le passait pas dans la rue sans le remarquer. Et puis il y a chez lui un amour de l'autre. Il était, c'est ce que dit Julien Green, convaincu a priori par la génialité de l'autre. Il y a peu de gens de cette trempe-là, des gens qui sont spontanément portés vers l'autre. Donc il a exercé comme ça un ascendant sur une espèce de groupe d'amis qui était un petit tiers-ordre d'obédience franciscaine, dont fait partie Stan avec son épouse, également Berthe Tigel, avec une dizaine, une vingtaine d'amis. Ils se retrouvent régulièrement pour prier ensemble. Et c'est comme ça que Stanislas Fumet va rencontrer et faire venir à lui tout un tas de gens qui sont des convertis de fraîche date.
Cet ouvrage que vous avez présenté et annoté, « Lettre à une convertie » publié par l'Harmattan, est préfacé par Maurice Schumann. Alors Schumann avait-il connu Fumet ? Maurice Schumann, évidemment, de l'Académie française. Quelles étaient ses relations avec Fumet ?
Alors Maurice Schumann était effectivement un ami de Stanislas Fumet. Ce sont tous les deux de grandes figures de la résistance. Pour Maurice Schumann, on le sait, bien sûr, c'est la voix de la France. Pour Stanislas Fumet, on le sait moins. C'était quelqu'un qui a été arrêté par la Gestapo, torturé, qui a eu la vie sauve grâce à l'intervention courageuse de sa fille Angèle de Radkowski. Et donc Stanislas Fumet, effectivement, avait pour ami Maurice Schumann. Et il se trouve qu'en 1996, lorsque la ville de Paris et Jean Tiberi ont apposé sur la maison de la rue Linet où habitait Stanislas Fumet une plaque commémorative, Maurice Schumann était là pour évoquer l'amitié qu'il avait liée toute sa vie au couple Fumet.
David Gaillardon, avant de vous laisser parler du travail que vous avez effectué sur cette correspondance, je vous propose de marquer une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
On revient dans notre studio en compagnie de David Gaillardon qui a donc présenté et annoté l'ouvrage consacré aux lettres de Stanislas Fumet à Berthe Tigel, un ouvrage intitulé « Lettres à une convertie » publié aux éditions L'Harmattan. Je voudrais maintenant, David, si vous en êtes d'accord, que vous nous disiez pourquoi vous êtes intéressé à cette correspondance. Comment avez-vous eu connaissance de ces lettres?
Alors, il se trouve que dans une autre vie, dans les années 90, alors que je travaillais aux éditions du CERF à Paris, j'ai organisé un certain nombre d'expositions ou de colloques autour des grandes revues catholiques de l'entre-deux-guerres et notamment de la revue 7 et de la revue La Vie intellectuelle des Pères dominicains. Et ça nous amène à Maritain, ça nous amène à ce milieu qu'on évoquait en début d'émission. Et c'est ainsi que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Angèle de Radkowski, qui est l'une des deux filles de Stanislas et Aniuta Fumet. Et elle m'a présenté ses lettres en me disant qu'elle cherchait à les présenter au public. Elle ne savait pas comment faire. Ses lettres étaient manuscrites, pas très lisibles. J'ai lu ses lettres, je leur ai trouvé une dimension spirituelle qui était indéniable. Puis il y avait cette amitié sur 50 ans avec des thèmes difficiles, celui de l'engagement et de la conversion, mais aussi la Shoah en filigrane, puisque Berthe Tigel a vécu le drame de la Shoah en perdant ses parents, sa sœur, un bébé également dans les camps de la mort, donc quelque chose de très difficile. Et donc ces lettres, effectivement, j'ai proposé à Angèle de Radkowski de les lire, bien entendu, mais de les dactylographier et puis de les annoter. Et ça a été,
il y a beaucoup de notes.
Voilà,
oui.
Ça a été un gros travail de recherche, essentiellement.
Mais heureusement qu'il y a ces notes, parce que c'est tout un milieu intellectuel que grâce à ces notes, on peut revivre, on sait qui est qui, et sinon on serait un peu perdu.
C'est tout le milieu du thomisme de l'entre-deux-guerres. Et puis, c'est toute une époque d'effervescence catholique dans la même période.
Alors, vous dites que vous avez eu connaissance de ces lettres dans l'année 2000, mais le livre ne sort qu'en 2009. Entre les deux, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors,
pas un reproche, c'est une interrogation.
La réponse est fort simple. Berthe Tigel, qui avait remis ces lettres de son vivant, fille de Stanislas Fumet, ne souhaitait pas qu'elles paraissent immédiatement. Elle souhaitait même qu'un délai soit respecté après sa mort. Berthe Tigel est morte dans l'année 2001, donc le travail a pu reprendre à ce moment-là. Et il se trouve que j'ai eu moi aussi d'autres projets éditoriaux entre-temps et l'ouvrage paraît aujourd'hui.
David Gaillardon, il y a aussi un autre académicien de l'Académie française qu'on pourrait citer, c'est Julien Green qui qualifiait justement Stanislas Fumet de, entre guillemets, « parfaitement chrétien ». Que voulait-il dire, à votre avis, par cette expression?
Oui, alors les lecteurs de Julien Green savent qu'il avait parfois la dent dure. C'était pas quelqu'un qui était forcément toujours très tendre, y compris avec ses amis. Or, dans le cas de Stanislas et d'Aniuta Fumet, il y a une réelle admiration de la part de Green pour cet homme, comme je disais tout à l'heure, convaincu a priori par la génialité de l'autre. Et si vous le voulez bien, Hélène, il y a cet extrait qu'on trouve dans le journal de Julien Green en date du 27 juin 1955 qui montre assez l'amitié que Julien Green a pour Fumet.
Lisez-nous ce passage, voilà.
Alors, je cite Julien Green. « Stanislas Fumet et sa femme à déjeuner. Nous les aimons tellement que nous leur pardonnerions tout s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner. Et qu'auraient-ils donc à se faire pardonner? Ils sont parfaitement chrétiens. Je pense qu'il y a 19 siècles, ils n'auraient pas été autres qu'ils ne sont aujourd'hui. La même joie dans leurs yeux, la même charité dans ce qu'ils disent. Beaucoup de gaieté, pas une parole méchante sur qui que ce soit, c'est très curieux. Et un vrai chrétien, et l'occasion d'en voir un n'est pas si fréquente. » Je crois que tout est dit là.
Tout est dit. Alors donc, si vous avez envie, vous, à votre tour, de découvrir Stanislas Fumet dans cette correspondance avec Berthe Tigel, c'est le livre de David Gaillardon chez L'Harmattan. Mais si vous voulez aussi découvrir Stanislas Fumet dans sa vie et par son histoire de Dieu dans ma vie, c'est publié aux éditions du CERF. Merci David Gaillardon et à bientôt pour une autre émission.
Au revoir.